C'est l'heure du face-à-face entre Pierre Jacquemin de l'hebdomadaire Politis et Sophie de Ravinel, éditorialiste politique à Public Sénat. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Rosaline.
Et votre une, Pierre, cette semaine, de Politis?
Oui, on est allé enquêter sur ces laboratoires citoyens qui se créent un peu partout en France, sur un abandon, parfois un déni des organisations sanitaires qui n'arrivent pas toujours à établir le lien entre l'activité économique locale et les maladies que l'on peut retrouver. Et on a notamment trouvé une recrudescence, ou en tout cas un foyer très important dans plusieurs endroits, de cancers pédiatriques. Et donc des citoyens s'organisent pour travailler avec des scientifiques pour élaborer et établir justement des liens de cause à effet entre l'activité économique locale, le bassin économique local et des problèmes de maladies locales. C'est un sujet de santé environnementale absolument central.
Ouais. Alors, donc François Bayrou, la méthode Bayrou a duré 45 minutes, munie de courbes, de graphiques et de PowerPoint, je vais y arriver. Le Premier ministre était professeur, expliquant par A plus B les pathologies économiques de la France. Pas de piste encore concrète, mais un constat, la maison brûle et la France ne produit pas assez et les Français ne travaillent pas assez. Et ce slogan au fronton, au-dessus de la tête de François Bayrou, « La vérité permet d'agir », il espère une prise de conscience des Français pour administrer sa future potion amère, 40 milliards à trouver dans les baisses de dépenses. Alors cet exercice de pédagogie était-il nécessaire et salutaire, Sophie?
Écoutez, en tout cas, nécessaire, oui, salutaire, je ne sais pas. Il a promis du sang, des larmes, de la sueur, peut-être aux Français, sans donner vraiment aucune des médications qui pourraient leur redonner confiance. Il a peut-être accentué l'inquiétude qu'il peut y avoir dans l'opinion publique, parce qu'évidemment, tout le monde voit bien le poids de la dette, la situation internationale, la situation économique, les relations entre les États-Unis et la Chine, qui vont sans doute pas faciliter, et y compris le fait qu'il n'y ait pas, a priori, de front européen uni vis-à-vis de la Chine non plus, et qui vont rendre la situation, toutes ces actions, encore plus difficiles. Et donc, on a l'impression de quelqu'un qui mesure avec François Bayrou la difficulté de la situation, mais qui ne sait pas ou qui ne souhaitent pas, et ça c'est un débat qu'on peut avoir, apporter de solutions parce que son objectif c'est de durer et donc de ne rien faire.
Voilà, donc l'immobilisme dans le fond, c'est un peu pour ça que François Bayrou est là, c'est surtout Monsieur Bayrou ne fait rien en fait, et c'est ce qu'il fait.
On est vraiment dans une situation où on a envie de se dire rien de neuf sous le soleil. C'est-à-dire que les questions économiques, les questions de budget, les questions de déficit budgétaire, on les connaît depuis longtemps. Donc vouloir faire croire aux Français qu'il est là pour faire de la pédagogie et leur faire comprendre qu'on a un problème budgétaire, je pense qu'il faut arrêter de prendre les Français pour des idiots. On sait où on en est. S'il y a un gouvernement en place, certes, il n'a pas de majorité, mais il doit fixer un cap. Et ce qu'on attend, et y compris, comme le dit Sophie, ce qui devrait nous préoccuper davantage, c'est la crise mondiale, les coups de Donald Trump sur la question des taxes et comment nous on est en capacité de réagir. Donc on aurait aimé d'avoir là de la parole de monsieur Bayrou un plan d'action, voilà, dit, je sais pas, des propositions sur comment là nous sommes en capacité de réagir
à ce qui est en train de nous attendre. Pas de réponse concrète.
Mais écoutez, si on raisonne comme monsieur François Bayrou, il faudrait faire absolument des économies, il faudrait toujours faire des économies. Bon bah il y a 40 milliards, c'est le budget de l'éducation nationale. Supprimons le ministère de l'éducation nationale. C'est leur logique comptable qui va pas. Il y a pas, on est sur la défensive, rendez-vous compte vis-à-vis du monde, on n'est pas capable de se projeter. Bon bah il y a la possibilité. Et je pense que c'est là où il a tort de dire qu'il n'y a pas de tabou, parce qu'il y a forcément des tabous. Il ne veut pas augmenter les impôts. S'il ne veut pas augmenter les impôts, je ne vois pas comment on règle le problème de l'hôpital, de l'école, de la question du transport public et de toutes les questions qui sont des conditions fondamentales. Ils disent qu'ils veulent augmenter les budgets de la défense, le budget de l'armée, mais et le reste. Oui. Enfin, je veux dire, ça sert à ça aussi, un gouvernement.
C'est sûr que les coups de rabot ne vont pas suffire. Et là, on va retrouver en quelque sorte, et on va le voir, et on le voit déjà, des conflits insolubles avec la gauche qui dit, notamment... Manuel Bompard qui dit c'est fastoche, il suffit d'aller taxer les très riches.
Absolument.
Il a même fait le calcul dans une émission en disant ça y est, les 40 milliards, on les a.
C'est pour ça que
c'est si fastoche. 75 milliards même, avait proposé le NFP.
Évidemment, avec des propositions qui sont assez. Qui sont engagées. Comme celle que propose Manuel Bompard, la France insoumise, la gauche radicale en France, on peut aussi, effectivement, comme vous le dites très justement, couper le budget de l'éducation nationale. Enfin, ça revient un petit peu près à ça. C'est-à-dire que les solutions, François Bayrou, il est face à des yaka faucons de droite ou de gauche qui disent à droite, eh bien, il faut absolument réduire les coûts dans la fonction publique et notamment les collectivités locales où il est vrai qu'il y a sans doute des économies à faire, il y a sans doute des doublons, il y a sans doute dans l'administration des échelons à observer, des sacrifices qui sont peut-être utiles à faire pour la France. Mais je par exemple, dans les collectivités locales, je pense qu'il y a eu des rapports qui ont été publiés pour dire qu'il y avait quand même une certaine redondance.
Les fameuses agences.
Non mais attendez, Sophie, je peux vous en citer plein, qu'on connaît par cœur, vous aussi.
On en a tous.
Mais ce qui pose un problème, on sait tous que François Bayrou n'est pas un homme de gauche et que donc du coup il ne fera pas les propositions qui sont proposées par la France Insoumise.
Mais non, mais bien sûr
À partir du moment où on sait ça, qu'est-ce qu'on attend de François Bayrou?
Les propositions de la France Insoumise, sont absolument inapplicables.
Mais je ne sais pas, il ne suffit pas d'être un afro-gauchiste pour appliquer les solutions de la France Insoumise. Regardez l'Espagne. Rosine sait que j'aime beaucoup le modèle espagnol. En Espagne, on est allé taxer les riches. C'est sans doute le pays le plus. Qui a le meilleur taux de croissance.
Et qui a proposé de le faire, sinon Michel Barnier, d'ailleurs.
Ce que je veux dire, si on va dans le sens...
Il a été rejeté pour ça.
Si on veut aller dans le sens de François Bayrou, on sait que c'est un homme de droite qui veut réduire les dépenses. Qu'attendaient les députés hier qui étaient présents devant François Bayrou et des autres partenaires, mais qui présentent les lignes sur lesquelles il veut raboter les budgets? Avançons. Et qu'il fasse sa politique pour laquelle il a été nommé Premier ministre.
Et pour les retraités. On est d'accord sur les retraités.
Il ne suffit pas d'avoir des rabots. Les rabots ne suffiront pas.
Déjà, à minima, ça serait une première chose. Quelles sont les pistes d'économie de Monsieur Bayrou? Vous avez entendu le ministre de l'économie quand même, quand on a le ministre de l'économie ce matin sur France Info qui dit le gouvernement n'a pas d'avis sur le budget. Qu'est-ce qu'on fait alors? On
attend la prochaine solution. Quand même, c'est une curieuse ce que relève Pierre.
Absolument.
Ce matin sur France Info, Éric Lombard dit je n'ai pas d'avis.
Mais oui,
quand même, le gouvernement n'a pas d'avis.
Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent sauver Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, la question de ne pas avoir d'avis, c'est qu'ils savent très bien que s'ils ont un avis et qu'il est tranché, ou tranchant, parce qu'il faut être tranchant au vu de la situation économique, ça va provoquer la disparition de ce bloc central dont on ne sait pas bien avec quelle pince à linge il tient encore au Parlement. Et du coup, si ce bloc central s'effondre, c'est une nouvelle censure. S'il y a une nouvelle censure, c'est que c'est Emmanuel Macron qui était en difficulté, qui est en capacité, qui ne sera plus en capacité de pouvoir exercer son mandat. Et la situation internationale sur laquelle je partais au départ est telle qu'il faut assurer cette espèce d'osmose et de rester sur cette tension-là.
Je ne sais pas si l'enjeu, c'est de sauver la tête de François Bayrou. En tout cas,
d'Emmanuel Macron.
Oui, j'entends aussi beaucoup.
Et les deux.
Ils cherchent à gagner du temps. Ça serait quand même dommageable pour la France que l'enjeu unique, ce soit de sauver la tête de Bayrou et qu'il reste le plus longtemps possible. J'entends dire qu'il voudrait prolonger les vacances parlementaires de fin juin à septembre pour gagner du temps.
Pas de session d'été.
Je trouverais ça, franchement, vraiment pas à la hauteur des enjeux actuels.
C'est un peu ça, il gagne du temps.
Mais complètement. Et puis Emmanuel Macron et François Bayrou, là-dessus, sont raccord sur tout le reste. Ils ont sans doute énormément de désaccords. Emmanuel Macron ne voulait pas de François Bayrou comme Premier ministre. Il voulait y mettre Sébastien Lecornu, qui était son plus proche, pour avoir justement cette assise et pouvoir poursuivre jusqu'en 2027. Il veut terminer son mandat. Et aujourd'hui, ça se résume à ça. Sauf que la situation économique est intenable et qu'effectivement, on a quand même une situation dans laquelle les Français vont mesurer qu'il y a des efforts à faire. Et que, évidemment, moi, je trouve qu'il y a des ministres qui ont du courage. Astrid Panosian, quand même, qui a eu... la force de dire, il faut peut-être que les retraités acceptent de faire des sacrifices. Les fameux retraités qui sont... Oui. C'est un choix politique, parce que c'est eux qui votent. Et donc, évidemment, personne ne veut...
C'est toujours le même problème, dès qu'on nous explique que la situation est dramatique, on s'en prend aux retraités.
Oui, mais enfin, les retraités, aux chômeurs. Tous les retraités, c'est pas vous qui allez défendre les retraités avec les plus grands revenus.
Quand vous prenez la liste, l'immense majorité des retraités, quand même, n'ont pas non plus des retraites si conséquentes qui nous permettraient d'aller taper dans leur poche.
On est d'accord.
Ce que je veux dire, c'est que dans la liste des gens qui sont ciblés, vous n'entendez jamais parler des grands patrons, vous n'entendez jamais parler des foyers les plus aisés. Vous avez toujours les mêmes, les chômeurs, les précaires, où on va rogner sur les minima sociaux, les actifs à qui on va demander de travailler plus longtemps. C'est quand même les vieilles recettes qu'on remet à l'ordre du jour.
Taxer les riches, c'est aussi une vieille recette qui marche peut-être.
Dans l'histoire récente, la gauche n'a pas beaucoup gouverné. Vous noterez quand même.
C'est ce qu'elle a fait.
Le problème, c'est qu'il y a quand même un truc qu'on a du mal à se dire quand même. C'est que quand on fait de la politique, il y a une question budgétaire. Dans un budget, il y a des dépenses et des recettes. À partir du moment où vous supprimez les recettes, c'est 90 milliards d'euros de recettes en moins dans les caisses de l'État depuis 3 ans. C'est-à-dire depuis 2017, vous comptez le nombre de manques à gagner pour l'État parce qu'on a fait des cadeaux aux entreprises sans contrepartie, ni économique, ni environnementale.
Les entreprises, celles qui embauchent. Les économistes vous répondront, les entreprises.
Et vous avez, c'est ceux qui. Et vous trouvez qu'on a un pays très attractif pour les économies aujourd'hui,
un peu plus.
Vous voyez le nombre d'entreprises qui ferment, qui sont de plus en plus défaillantes aujourd'hui. Oui. Je veux dire, c'est qu'en plus, ça a un côté récessif, l'espèce de contraction des budgets publics. C'est le premier poste de dépense de l'État, quand même, les aides publiques aux entreprises.
Ce qu'on n'a pas vu et ce qui est regrettable, c'est ce fameux bouclier qui avait été déployé pour protéger les Français du Covid. Et puis au moment où on s'apprêtait à le reprendre pour reprendre un peu la main sur justement cet argent-là, il est reparti sur les questions de évidemment à cause de la guerre en Ukraine et de l'énergie et donc de la protection des Français. Sauf que les Français ne voient pas à quel point ils ont été protégés de ces dépenses exponentielles. Et donc, politiquement aussi, c'est extrêmement compliqué à faire valoir aujourd'hui.
Ah, on change de sujet, alors que les relations entre l'Algérie et la France étaient sur le point de s'arranger, une brusque montée en tension a fait s'écrouler l'édifice fragile de la normalisation. Après l'expulsion par Alger de 12 fonctionnaires français à Alger, la France a annoncé hier l'expulsion également de 12 diplomates et rappelé son ambassadeur. Dent pour dent, œil pour œil, on va écouter l'explication de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères.
Nous démontrons, sans aucune forme d'ambiguïté, notre capacité à répliquer sans hésiter et avec fermeté.
Et on n'ira pas plus loin.
Je ne vais pas préempter le futur de nos discussions avec l'Algérie. Je dis simplement que si nous voulons des résultats pour les Françaises et les Français, il nous faudra un jour ou l'autre revenir à un dialogue franc, lucide et exigeant.
Est-ce que ça commandait effectivement à Emmanuel Macron de finir dans ce rapport de force ? Est-ce qu'il y avait d'autres solutions ?
En matière diplomatique, il y a des règles. Là, on joue des codes de la diplomatie. On n'est pas encore dans une rupture. J'entends dire, est-ce qu'il y a une rupture ? Vous posiez la question, Roselyne. Il n'y a pas de rupture. La rupture, ce serait de rompre avec les accords de 68. Ça serait de rompre avec les différents accords commerciaux. Il y a beaucoup trop d'enjeux entre la France et l'Algérie, que ce soit sociaux, culturels, économiques, même en termes de renseignement. Il y a énormément de coopération entre l'Algérie et la France sur la question du renseignement, donc personne n'a intérêt à la surenchère, personne, ni l'Algérie ni la France n'a intérêt à ça. Par ailleurs, il y a une autre chose, c'est que c'est près de 2 millions de personnes en France qui sont issues de l'immigration première génération algérienne, donc c'est aussi mettre une population en danger, une population en otage de ces désaccords entre la France et l'Algérie. Donc je pense qu'il y a quand même, à travers ce conflit, quelque chose qui se joue à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on prend le prétexte de ces relations bilatérales pour régler des problèmes intérieurs. On voit bien entre Monsieur Retailleau et Monsieur Barrot. C'est ça qu'on règle dans ce conflit, et y compris du côté algérien, entre le président Tebboune et puis une partie de ses opposants, il n'y a pas un accord sur la manière dont l'Algérie doit traiter la France. Donc je ne crois pas que ce soit extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Certes, il faut une désescalade, mais il y a beaucoup trop d'enjeux et d'intérêts communs pour qu'on en arrive à une rupture.
Ce rapport de force était appelé des vœux de Bruno Retailleau. Hein, sur les affaires déjà des OQTF, il était partisan d'une ligne assez dure.
Et mais oui, absolument. Il faut se souvenir quand même de cet attentat à Mulhouse il y a quelques mois qui a été perpétré par une personne qui possédait un passeport algérien et que la France avait tenté d'expulser 14 fois. Donc Bruno Retailleau a décidé de prendre ce dossier. On peut comprendre les Algériens qui n'ont pas envie de récupérer de tels individus qui n'ont d'Algériens peut-être que leur passeport justement. Mais il y a quand même un bras de fer qui a été mené, et là où je diffère avec vous, c'est que je pense, moi, que la situation n'a jamais été aussi tendue entre la France et l'Algérie. Depuis 1962, il n'y a jamais eu d'expulsion à ce niveau-là. On sait qu'il y a quand même cette enquête qui a été menée sur le sol français. Après l'enlèvement, quand même, il y a un an de cet influenceur qui dénonçait les malversations, les barbouzeries ce régime algérien qui est en train de finir, qui n'en finit plus de finir et qui prend son pays en otage, qui s'appelle Amir Boukor, et quand même de voir qu'il y a des agents des services algériens qui agissent sur le sol français et qui, en toute impunité, hein, on se souvient, c'est quand même du niveau de ces Russes qui vont aller au Polonium, on s'en souvient, au Royaume-Uni en 2006, empoisonner leurs opposants, ou de ces Tchétchènes tués par des Russes sur le sol allemand, ou même du régime islamique iranien qui vient en France agir sur ses propres opposants qui sont sur notre sol français. C'est extrêmement agressif, et c'est quand même difficilement tolérable pour la France de laisser ces agissements. Moi, je pense que là, effectivement, la France et l'Algérie ne parviennent pas à se retrouver sur un même calendrier. La visite de Jean-Noël Barrot le 6 avril dernier à Alger était quand même il s'est pris une bonne claque, si je puis me permettre, parce que c'était quelques jours avant qu'on apprenne l'issue de l'enquête et donc l'arrestation sur le sol français de ce représentant des services algériens. Oui. Je pense là que Monsieur Barrot va peut-être rallier la position. En tout cas, il me semble, ce qu'on me dit, c'est à peu près le cas, que François Bayrou et Jean-Noël Barrot commencent par se dire que effectivement Bruno Retailleau n'a pas tort de vouloir être dans un front fort, que Emmanuel Macron est assez isolé. Ils peuvent prétendre qu'il y a le chef de l'État d'un côté français et algérien qui essaye de maintenir le dialogue et les autres qui travaillent en bas. Il y a une vraie opposition. Et c'est peut-être aussi le moment de clarifier, effectivement, comme vous le dites là très justement, cette imbrication de nos deux pays. Ouais. Il y a besoin d'y voir un peu clair.
Oui, et qu'est-ce qui peut, dans le fond, maintenant, Pierre, même si vous ne lisez pas dans le bar de café, mais qui peut apaiser le dialogue désormais? Est-ce qu'on continue cette escalade, ce qui n'est ni bon pour les uns et pour les autres? Et comment on calme le jeu?
Déjà, je pense qu'il faut continuer à nourrir des relations diplomatiques quotidiennes. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure, les enjeux, ils sont sociaux, culturels, économiques. Il y a beaucoup d'entreprises. Je pense à Renault, par exemple. Il faut qu'elle continue d'obtenir ses certificats d'exploitation de la part d'Algérie. Si tout ça est remis en cause, effectivement.
Et nous, du gaz.
Exactement. Et nous, du gaz. Je veux dire, nos intérêts sont tellement convergents. En tout cas, on a tellement de choses en commun avec l'Algérie qu'il faut tout faire pour maintenir ces relations diplomatiques.
Et d'un autre côté, comme le disait Sophie, on peut pas accepter ces barbouzeries.
Mais sans doute. Mais ce que je veux dire, y compris sur des questions qui nous tiennent à cœur, l'Algérie comme la France, sur les questions de terrorisme, les questions de renseignement, on a énormément de coopération entre nos deux pays. Certes, la France reproche à l'Algérie de faire. Exactement. Donc je veux dire, ces intérêts sont beaucoup plus forts que ce qui nous divise. Il faut arrêter de tout concentrer sur la question des OQTF. Pour moi, c'est un non-sujet, les OQTF, quand on a un problème avec des personnes. Pour moi, c'est un non-sujet. Quand on a un problème avec un ressortissant étranger en France qui fait des. Qui crée des.
On va pas le mettre à Saint-Pierre-et-Miquelon, on est d'accord.
On le mettra pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais on a justice en France qui est capable de gérer ces gens-là. Donc plutôt que de les renvoyer dans des pays autres et de ne pas savoir ce qu'ils vont devenir, possiblement revenir et devenir dangereux sur notre territoire, autant que
ils le sont déjà dangereux.
Pour moi, les OQTF, ce n'est pas le sujet. Et le sujet, le problème principal de tout ça, c'est quand même Retailleau qui a mis le feu aux poudres.
Mais oui.
Oui, c'est la fin. Désolée, Sophie. Merci d'être venue sur France 24. Merci, Pierre.
Merci, Rosine.
Et à très vite, à demain, pour Politique et nos éditorialistes.